Good afternoon. Thank you very much.
Bonjour, merci beaucoup d'être venu. Le secrétaire général va commencer par quelques remarques liminaires et comme de coutume, il répond.
Good afternoon. Today I would like to talk not just about NATO, but about NATO and the European Union, and about what we Europeans can and should do to ensure that Europe is a powerful global actor, not a global spectator. Later today, I will go to the European Parliament to address a joint meeting of the Committee on Foreign Affairs and Subcommittee on Security and Defence, together with the chairpersons of Defence and Foreign Affairs Committees of national parliaments. L'une de mes priorités en tant que secrétaire.
One of my priorities as Secretary General has been to further enhance relations with the European Union. So I am actively engaging with our colleagues on this side of town, because NATO and the European Union are strategic partners. Europe's security cannot and must not be confined to a single framework. For over 60 years, we have seen that Europe's security depends on the efforts of both NATO and the European Union. We only have to look to North Africa and the Middle East to see that we face an increasingly complex and challenging international security environment. So in the future, we need to do more together, not less. We need to remain committed and capable to deal with these security challenges we face collectively. We need to learn the lessons from our operations, regardless whether they are conducted under NATO, European, or national command in Afghanistan, over Libya, and in Mali.
European nations still don't have enough of the capabilities that are key to modern missions and operations. Transport planes, air-to-air refueling, and intelligence, surveillance, and reconnaissance assets. We are making some progress, but we need to go further. All our nations face declining defense budgets, so we can only be effective if we work together and coordinate our efforts. This is not a competition. We are complementary.
...entre nos deux organisations. L'OTAN et l'Union européenne ont déjà montré avec quelle efficacité elles peuvent coopérer pour faire régner la paix et la sécurité sur notre continent, en Europe centrale et de l'Est, et dans les Balkans. L'OTAN a démontré sa capacité à agir rapidement et en cas de crise de forte intensité, tandis que l'Union européenne peut déployer un large éventail de compétences civiles et militaires pour aider à reconstruire un pays. L'exemple le plus récent est le Kosovo. Depuis plus de 10 ans, l'OTAN est garantie un environnement sûr et sécurisé, permettant ainsi à l'Union européenne d'utiliser ses instruments diplomatiques et économiques pour consolider les institutions et l'économie locale. J'ai accueilli avec satisfaction l'accord historique conclu entre Belgrade et Pristina. J'ai félicité Cathy Ashton lorsqu'elle est venue à l'OTAN le jour même en compagnie de M. Dačić et de M. Tachi. Tous deux ont indiqué clairement qu'alors qu'ils travaillent à la mise en application de cet accord, Il voit dans l'OTAN le garant de la paix et de la sécurité de toute la population du Kosovo. Le processus a été long et difficile. L'OTAN et la KFOR en particulier ont soutenu l'action de l'Union européenne dès le début et tout au long du parcours. Nous avons constaté au fil des années que la coopération étroite entre l'OTAN et l'Union européenne, ici à Bruxelles, mais également sur le terrain, donnait des résultats tangibles. La détermination de l'OTAN à soutenir la mise en application de l'accord reste un élément clé de la réussite. Et j'espère qu'elle se traduira bientôt par de nouvelles améliorations des conditions de sécurité sur le terrain dans le nord du Kosovo. Cet accord est une avancée importante pour la paix et la sécurité régionale. Et il devrait donner une nouvelle impulsion à notre objectif commun, qui est l'intégration euro-atlantique des Balkans occidentaux. Ainsi, l'OTAN et l'Union européenne doivent faire preuve de davantage d'ambition pour se compléter et se renforcer mutuellement. Nous devons pour cela saisir l'opportunité du Conseil européen de décembre. En décembre, les dirigeants européens mettront l'accent sur la sécurité et la défense pour la première fois depuis le début de la crise financière. J'espère qu'ils prendront des mesures claires pour que l'Europe ait à la fois la capacité et la volonté d'agir. J'espère aussi qu'ils encourageront l'Union européenne et l'OTAN à se coordonner et à coopérer davantage. La sécurité est une affaire collective. L'accord entre Belgrade et Pristina montre que l'OTAN et l'Union européenne peuvent et doivent travailler ensemble pour notre sécurité commune. Je suis convaincu qu'il en sera ainsi. Voilà, je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. COVID News Agency, je voudrais poser une question sur l'évolution récente de la situation en Syrie. Ces derniers jours, en Syrie, il y a aussi des comptes rendus sur l'utilisation d'armes chimiques. Quels sont vos commentaires au sujet de ces événements ? Êtes-vous préoccupé par un débordement du conflit ? Tout d'abord, au sujet des frappes israéliennes, j'ai connaissance des rapports dans la presse. À ce sujet, je n'ai pas d'indication au sujet de ces activités dans la région pour ce qui est du déploiement des patriotes de l'OTAN. Bien sûr, les alliés de l'OTAN continuent à suivre de près la situation. Comme vous le savez, nous nous concentrons sur notre déploiement défensif visant à protéger les populations et le territoire de la Turquie.
Chemical weapons.
En ce qui concerne les armes chimiques,
we do have indications
nous avons chemical weapons des indications montrant que des armes
used.
Chimiques
However,
peuvent être
we don't
utilisées,
have,
mais nous n'avons pas
consolidated information as regards
synthétique au sujet
more detailed circumstances,
de
including
circonstances détaillées
have actually used,
a
chemical
utilisé
weapons.
Des armes chimiques.
But of course, these developments remain
sûr, ces événements
of grave concern
restent extrêmement
and,
préoccupants.
Emphasizes how urgent
cela montre
it is
l'urgence
that the international
qu'il y a
community
à ce que la communauté internationale
should redouble
its efforts
to find a political
solution
to this
crisis à cette
crise. So that we can see an end
ainsi,
to the bloodshed and the start
la fin de ce bain de sang,
of a general transition that accommodates the legitimate aspirations of the Syrian people.
Prenant compte des aspirations légitimes du peuple syrien.
Thank you. Terry Schultz with National Public Radio and CBS
National
News.
Public Radio,
Mr. Secretary General, even
Monsieur
if
Secretary General,
you don't have yet consolidated
si
or firm evidence of who is using the chemical weapons, how much more does it concern you to hear that the opposition, the sort of side of the war that most of the world would be supporting may have been the ones to use sarin gas in this instance. Doesn't this just raise the stakes that much higher that perhaps both sides are in possession and willingness to use these weapons?
Let me emphasize once again, we do not have
permettez-moi de souligner à nouveau
confirmed and consolidated information as to who might have used chemical weapons. But I would like to stress that any use of chemical weapons, whoever might have used chemical weapons, any such use is a breach of international law and of course a matter of grave concern. So we remain concerned about the situation in Syria. And we urge the international community to redouble its efforts to find a political solution.
Afin de trouver une solution politique.
Al-Arabiya?
Monsieur le secrétaire général, je suis là, au fond de la salle.
Nourdine Farid from Al Arabiya News Channel. The Israeli official almost recognized that they bombed.
Les responsables israéliens ont quasiment reconnu que leur bombe avait frappé à deux reprises la Syrie au cours des deux.
I would like to ask you if you.
J'aimerais savoir si vous êtes préoccupé par l'implication des Israéliens dans ce conflit. Et Madame Carla Del Ponte est membre de la commission d'enquête internationale et elle a indiqué qu'elle avait vu des rapports qui laisseraient entendre que les forces d'opposition auraient eu recours à des armes chimiques lors des incidents de mars dernier. Donc j'aimerais savoir si vous êtes favorable à ce que les Israéliens interviennent dans ce conflit. Et pensez-vous que ce qu'a dit Madame Carla Ponte soit digne de foi, puisqu'elle porte des accusations? S'agissant des frappes israéliennes, comme je vous le disais, j'ai connaissance des communiqués de presse, mais je n'ai pas d'autres informations. Bien sûr, nous sommes très préoccupés par la situation en Syrie et à proximité de la Syrie. Mais en ce qui nous concerne, cette préoccupation n'est pas nouvelle. Depuis un certain temps maintenant, nous exprimons nos préoccupations quant au risque de débordement de ce conflit. Donc nous continuons d'être préoccupés, comme nous le sommes d'ailleurs depuis un certain temps. Et puis, s'agissant du recours aux armes chimiques, je ne sais pas sur quelle base Carla Del Ponte a fait cette déclaration. Ce que je tiens à souligner, c'est que l'utilisation éventuelle d'armes chimiques représente une violation du droit international, quel que soit ceux qui auraient utilisé ces armes. Donc, nous sommes très préoccupés et il me semble que les développements dont nous avons été témoins récemment soulignent bien à quel point il est important que nous trouvions une solution politique et le plus tôt sera le mieux. La communauté internationale a une responsabilité importante et doit trouver une solution politique rapidement. J'invite instamment les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies à trouver une solution, à envoyer un message au régime de Damas Alors disons que le moment est venu d'entamer une transition qui pourra aboutir à une solution politique qui tiendra compte des aspirations légitimes du peuple syrien. Il me semble que nous avons un cadre qui devrait permettre de trouver une solution politique. Le 30 juin 2012, ce que l'on appelle le groupe d'action pour la Syrie a publié une déclaration suite à la réunion qui a eu lieu à Genève. La force de cette déclaration, c'est qu'elle est signée par les 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour moi, il devrait être possible de trouver une solution dans ce cadre-là.
Muska, agence de presse danoise, au cours d'une récente interview avec le magazine Politiken, sous le titre « Erreur en Irak ». Ces erreurs en Irak empêchent une intervention militaire en Syrie. Vous parlez d'expériences irakiennes. Pourriez-vous nous dire quelles ont été ces erreurs, ce que vous en avez appris, et dans quelle mesure elles vous permettent de définir la ligne rouge pour la Syrie? J'ai fait allusion au fait même qu'il est compréhensible que les dirigeants politiques souhaitent des preuves clair lorsqu'il s'agit de la détention et de l'utilisation éventuelle d'armes chimiques, tenant compte de l'expérience irakienne. On m'a demandé quels étaient les indices qui montraient que des armes chimiques ont pu être utilisées en Syrie. Et je pense, avec d'autres, qu'il est extrêmement important d'avoir des informations fermes, des preuves tangibles. C'est pour cela qu'il est de la plus haute importance que les inspecteurs des Nations Unies puissent avoir un accès complet et libre à la Syrie pour mener l'enquête sur ce qui s'est passé. Il est regrettable que jusqu'à présent, les autorités syriennes ont refusé l'accès des inspecteurs des Nations Unies. Jane's Defense, Monsieur Rasmussen, une question sur le Conseil de décembre. Votre souhait de travailler en coopération plus étroite, mais j'ai des difficultés. Je ne vois pas ce que les deux organisations peuvent faire officiellement, à part publier des déclarations officielles. Les deux parties coordonnent leurs initiatives de défense intelligente et autres. Le problème, c'est la base industrielle de défense qui rétrécit dans le monde. Qu'est-ce que les deux parties peuvent faire ensemble? Je ne vois pas vraiment. Veuillez nous le dire. Enfin, en reprenant ce que vous avez dit, la réponse est très claire. Il faut investir davantage dans la défense. Et je puis vous dire déjà ce que je vais dire aux parlementaires cet après-midi. Si les Européens ne sont pas prêts à investir suffisamment d'argent dans la défense, eh bien, si on parle de notre défense européenne renforcée, ce ne sera que du vent. Reuters, monsieur le secrétaire général. Dans la foulée de ce que vous avez dit, dans le livre blanc de la défense française, on appelle à consacrer 1,5% du PIB à la défense en 2014. Je crois que c'est un mauvais exemple de la part d'un des alliés les plus puissants militairement. S'il y a une réduction des budgets jusqu'à ce niveau-là, comme vous le savez, en tant qu'alliance, nous ne nous ingérons pas dans les décisions nationales sur le niveau des dépenses consacrées à la défense. Nous avons des étalons à l'échelle de l'Alliance, mais c'est à chaque pays individuellement de prendre ses décisions au sujet du niveau des dépenses consacrées à la défense. De plus, il s'agit aussi de savoir comment on dépense son argent pour la défense. Et en fait, la France est un allié qui a fait la preuve non seulement de ses capacités militaires, elle peut les déployer au-delà de ses frontières et participer à des opérations internationales. Elle peut même les diriger, mais la France a également montré qu'elle avait la volonté politique de recourir à ses capacités militaires. Globalement, je salue le livre blanc français que j'ai étudié. J'ai vu que la France était fermement engagée à travailler dans le cadre de l'OTAN. Elle reste engagée à l'égard de l'Alliance de défense transatlantique et j'ai pris note également du fait que par rapport au plan précédent, il semblerait que la France garde le cap, entre guillemets, pour ce qui est des investissements consacrés à la défense. Je salue donc ces engagements fermes.
Une question en français, vous pouvez répondre en anglais si vous préférez bien.
Can answer in English if you prefer, of course. But concerning your plea for rapprochement between the EU and NATO, do you foresee a political solution to the problem that's been blocking this cooperation for a long time, that is Cyprus? And secondly, this plea and your presence in the European Parliament will certainly reinforce rumor according to which you're looking for higher responsibilities within the EU. Is this to be placed in this framework?
First of all, as you know, to fundamentally
pour régler, quant au fond, les problèmes dans les relations entre l'OTAN et l'Union européenne, il nous faut une solution au problème chypriote. Et j'appelle instamment toutes les parties prenantes à Chypre pour qu'elles trouvent une solution, qu'elles réunifient l'île. Il y a beaucoup d'enjeux économiques également, et les deux parties de l'île bénéficieraient d'une réunification. Il y a des ressources naturelles qui sont exploitables. Dans le cadre de réunion, nous pourrions aussi avancer politiquement lorsqu'il s'agit de partenariats entre l'OTAN et l'Union européenne. Pour ce qui est des plans pour l'avenir, j'ai déjà beaucoup à faire, je suis occupé à 100%. Je n'ai donc pas commencé à réfléchir à ce que je ferai ultérieurement.
Monsieur le secrétaire général, j'aimerais revenir sur la question des allégations de frappe israélienne en Syrie. Il est difficile de comprendre comment un acteur mondial comme l'OTAN pourrait ne pas savoir qui est responsable ou pas de ces frappes. Alors je me demande si quelqu'un à l'OTAN, ou vous à titre personnel peut-être, auriez été en contact avec les responsables israéliens. Ont-ils confirmé leur responsabilité? L'ont-ils infirmé? Vous ont-ils dit que cela ne vous regardait pas? Écoutez, je répète ce que je vous ai déjà dit. J'ai pris connaissance de ce qu'a rapporté la presse. Sur ce qui est des rapports de renseignement, nous ne faisons pas de commentaires, bien évidemment. Mais comme cela a également été dit, nous n'avons aucune indication comme quoi il y aurait eu ce genre d'activité dans les zones où les patriotes de l'OTAN ont été déployés. Voilà, c'est tout ce que je puis vous dire sur le sujet. Vous n'avez pas été en contact avec des responsables israéliens? Pas de commentaires. APC News. Alors, sur la question de l'accord entre la Serbie et le Kosovo, il y a quelques jours, le président du Kosovo a dit que le rôle de l'OTAN pour ce qui est de la mise en œuvre de cet accord était plus que nécessaire. Quelles sont les garanties qu'a donné l'OTAN comme quoi cet accord sera bel et bien mis en œuvre sur le terrain ? Eh bien, je puis vous assurer que nous ferons tout notre possible afin d'aider à la mise en œuvre de cet accord politique. Comme je l'ai dit dans mes remarques liminaires, nous avons félicité l'Union européenne d'avoir facilité ce processus. Nous avons également félicité les dirigeants politiques, tant à Belgrade qu'à Pristina, pour leur forte détermination à trouver une solution politique. Ce que nous avons vu, c'est que les deux parties considèrent que l'OTAN est le garant impartial de la paix et de la stabilité. Et ce que nous avons donné comme assurance, c'est que nous allions continuer à mettre en œuvre pleinement le mandat des Nations Unies, à savoir, nous allons veiller à ce qu'il y ait un environnement sûr et sécurisé, ainsi qu'une liberté de circulation pour tous les individus au Kosovo. Et je suis ravie de constater que toutes les parties concernées font confiance à l'OTAN, à la CAFOR, et considèrent que l'OTAN est le garant impartial de la paix, de la stabilité. Nous poursuivrons nos efforts et nous aiderons à la mise en œuvre de cet accord. Bonjour, NHK Japan Broadcasting Corporation. J'aimerais revenir sur la question de la Syrie. Vous avez à de nombreuses reprises exprimé vos préoccupations s'agissant du risque de débordement. Alors, il semble clair maintenant que les Israéliens ou d'autres parties soient impliqués. Et nous avons vu qu'il y avait un réel risque de débordement. Donc, est-ce que cette attaque de la part d'Israël pourrait aider à mettre un terme au bain de sang qui a lieu dans ce pays ? Et à cet égard, se pourrait-il que l'Orient puisse changer de cap et intervenir au plan militaire ? Eh bien, la position de l'OTAN demeure inchangée. Comme je vous l'ai dit, nous restons préoccupés pour ce qui est de la situation humanitaire. Plus de 70 000 personnes ont été tuées. Plus d'un million de réfugiés ont quitté le pays. Ce que nous voyons est épouvantable. Alors il y a un risque de débordement régional. Cela nous préoccupe. Nous sommes également préoccupés par le risque que soient utilisées des armes chimiques. Nous considérons que la communauté tout entière doit trouver une solution. L'OTAN, quant à elle, est axé sur la défense et la protection des alliés, en l'occurrence de la Turquie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déployé les batteries patriotes et nous avons des plans qui ont été établis pour défendre la Turquie contre toute attaque éventuelle. C'est une obligation pour nous en tant qu'alliance militaire que de défendre nos États membres et leur population. C'est sur cela que nous axons nos efforts. Mais nous ne cachons pas que nous sommes gravement préoccupés par la situation et par les développements en Turquie. Et c'est la raison pour laquelle nous en appelons à toutes les parties. Nous en appelons à la communauté internationale afin que soit trouvée une solution politique dès que possible. Dernière question. La presse croate et monténégrine. Alors, dans la presse internationale, il y a eu des allégations comme quoi la Croatie aurait vendu des armes aux rebelles syriens. Avez-vous connaissance de la chose? Avez-vous un commentaire à faire sur cela? Que savez-vous sur ce sujet? Et puis maintenant, une question en rapport avec le Kosovo. Vous nous avez dit que l'OTAN allait faire son possible pour que soit mis en œuvre l'accord. Vous ai-je bien compris? Est-ce que cela signifie que vous allez continuer de faire tout ce que vous faites dans le cadre de votre mandat ou bien envisagez-vous autre chose? Alors, sur la question de la Croatie et des allégations de livraison d'armes, je n'ai aucune information et aucun commentaire à faire. Sur la question du Kosovo, nous avons un mandat. Nous allons pleinement mettre en œuvre ce mandat. Nous en avons assuré les parties à cet accord politique. Merci beaucoup.